Vous écoutez
RMC.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jus, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le Pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
C'était il y a 30 ans, le 1er mai 1994, Ayrton Senna, la mort en direct.
Enzo et Dino Ferrari. S'il est des noms chéris de tous les Italiens, ce sont bien ceux du Commendatore et de son fils. Un nom que les propriétaires du circuit d'Imola, proche voisin de Maranello et des usines Ferrari, ont choisi de donner à leur autodromo à la fin des années 70. Un beau circuit, à l'ancienne, tracé dans les collines d'Émilie-Romagne, où seuls les pilotes au gros cœur se régalent une fois l'an au cœur du printemps. En cette fin avril 1994, les tifosi de Ferrari n'ont pourtant pas trop le moral. Non, les voiteurs rouges n'ont plus triomphé ici depuis 11 ans et le succès du français Patrick Tambay. Depuis, ils patientent et ont décidé de reporter leur passion sur Ayrton Senna, vainqueur de 3 des 5 derniers Grands Prix disputés à Imola, devenu terre brésilienne. Les commentateurs brésiliens, frustrés depuis tant d'années par leur Seleção, se sont trouvés un nouveau dieu. Ayrton Senna da Silva, vainqueur de 41 Grands Prix et de 3 titres mondiaux, il est l'idole absolue de tout le Brésil. Un champion qui, en ce début de saison, a pourtant du mal à trouver ses marques. Passé de McLaren à Williams, Senna n'a pas inscrit le moindre point lors des 2 premières courses, toutes deux remportées par un jeune pilote allemand nommé Michael Schumacher. S'il veut retrouver sa couronne, il lui faut absolument s'imposer ce dimanche. Ici, on part de zéro. C'est donc ici que notre championnat débute. Ce n'est pas une position confortable, mais c'est la réalité. Vous avez déjà gagné 3 fois. Vous êtes obligé de gagner une 4e ? J'adorerais, oui. Le petit sourire triste de Senna en dit long sur son moral. Depuis son arrivée chez Williams, rien ne marche comme il le souhaite. Soumise à de nouveaux règlements, la monoplace anglaise semble être mal née. Et pour couronner le tout, Senna a perdu celui qu'il adorait battre, le français Alain Prost.
J'ai beaucoup appelé au téléphone, mais posé pas mal de questions justement sur la Williams. Il était pas content de la voiture, il était pas content de sa position dans la voiture. Il m'a parlé beaucoup de ça et il était très, très préoccupé de la sécurité, beaucoup plus que d'habitude. Il était vraiment très très perturbé. Il n'était pas bien dans sa peau. Et il avait envie de se raccrocher à quelqu'un comme moi qui avait été le plus loin et le plus proche en même temps ces dernières années. Mais je lui manquais, quoi, c'est tout.
Et Prost manque tellement au Brésilien que celui-ci décide de lui laisser un petit message lorsqu'il enregistre pour TF1 son tour de piste commenté. Enregistrement destiné à être diffusé le dimanche. Jour de course. Un bonjour spécial à mon très cher, à notre très cher ami Alain Prost. Tu me manques, Alain.
C'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard.
Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. On en vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que, comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais.
Dans cet océan de déprime reste une certitude apparente, celle de la sécurité. Depuis le décès de Gilles Villeneuve en Belgique en 1982, la F1 n'a plus jamais été endeuillée lors d'un week-end de Grand Prix. Pourtant, en ce vendredi, premier jour d'essai, une alerte sérieuse va se manifester lorsqu'au volant de sa Jordan, le jeune Brésilien Rubens Barrichello décolle sur un vibreur avant de heurter un mur de pneus à la vitesse d'un avion de chasse. Ayrton, vous avez vu Rubens ? Oui, je l'ai vu, il va bien. Il est choqué, évidemment, mais il va bien. Vous lui avez parlé ? Oui, oui. Le jeune Brésilien s'en sort par miracle avec seulement un nez et un bras cassé. L'alerte est chaude, mais le cockpit a tenu et le choc est protégé le Brésilien. Rassuré, les pilotes prennent part le lendemain à la 2e séance de qualif. Parmi eux, l'Autrichien Roland Ratzenberger. À 34 ans, le Salzbourgeois est un quasi-inconnu. Débarqué dans le grand monde de la F1 en début de saison, il tente de se faire une place au volant de la modeste Simtech Ford. Ce samedi, Ratzenberger sait qu'il joue gros dans une qualif dont le pilote crédité du moins montant ne sera pas qualifié pour le Grand Prix le lendemain. L'Autrichien s'élance donc le couteau entre les dents. Son envie de bien faire est telle qu'il ne prend pas la peine de passer au stand réparer un aileron abîmé sur un vibreur. Au tour suivant, l'aileron s'envole, la monoplace ne répond plus aux ordres de l'Autrichien et vient frapper le rail de sécurité à plus de 300 km/h. La monoplace est désintégrée. La tête de l'Autrichien dodeline de gauche à droite avant de se poser définitivement sur le côté. Il est 13h20. Le pire vient d'arriver.
Mesdames et messieurs, l'organisateur du Grand Prix de Saint-Marin vient de recevoir un rapport de l'hôpital Maggiore de Bologne. Le pilote de la voiture numéro 32 MTV Simtech Ford, Roland Ratzenberger, a succombé à ses blessures suite à l'accident survenu sur le circuit d'Imola lors des qualifications du samedi 30 avril.
Une chape de plomb s'abat sur le circuit. Ayrton Senna tente de se rendre sur les lieux de l'accident pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais il est refoulé par les officiels. Il décide alors de ne pas prendre part à la suite des qualifs, étant par ailleurs déjà assuré de la pole.
J'avais de mauvaises sensations pour conduire la voiture et la pousser vers ses limites. Je n'ai pas eu un tour sur lequel je me suis senti vraiment parfaitement à l'aise. Et puis avec tous ces accidents, je n'étais pas vraiment confiant.
Un Senna abattu qui s'entretiendra au soir de ce samedi funeste avec le docteur Watkins, délégué médical de la F1 dont le Brésilien est très proche.
Ayrton est bouleversé, il se met à pleurer. Alors je lui dis, Ayrton, tu as gagné le championnat 3 fois, tu es l'homme le plus rapide du monde. Et comme je sais qu'il aime beaucoup la pêche, je lui dis, si tu arrêtais et que j'arrêtais aussi, on pourrait aller à la pêche. Alors il me dit, Sid, je ne peux pas arrêter.
Non, Senna ne peut pas renoncer. Sa conscience professionnelle est telle qu'il décide de s'aligner le lendemain au départ du Grand Prix de Saint-Marin. Ce dimanche matin, la foule des grands jours est présente sur le circuit Ferrari. Le ciel est bleu azur, un beau dimanche de printemps qui va tourner une nouvelle fois au cauchemar. 14h pile, les moteurs vrombissent. Le 14e Grand Prix de Saint-Marin débute, mais le chat noir rôde toujours dans les collines d'Émilie-Romagne.
C'est Gigi Leto qui a calé au départ. Tout le monde a pu l'éviter, sauf une Lotus.
Pedro Lamy.
Celle de Pedro Lamy, tout à fait.
Eh bien, là aussi, le choc a été assez dur. Les voitures sont sous l'ordre de la voiture de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas interrompu la course.
En tout cas, les deux pilotes ne sont pas touchés.
Les débris des monoplaces accidentées sont évacués en urgence. Le safety car entre en action, puis quelques tours plus tard, se range, libérant à nouveau les fauves. Senna est en tête, suivi de très près par Schumacher. Les deux pilotes passent la ligne droite des stands avant de s'engager dans le long gauche de Tamburello qui passe à fond de sixième à près de 300 km/h. Lorsque soudain, sans prévenir, la Williams décroche dans le virage et va tout droit s'encastrer dans le mur.
Senna batte au quart.
Something dramatic went wrong with Senna. At the San Marino Grand Prix, Ayrton Senna still in his car.
L'immobilité de Senna est très très effrayante quand même. Ses pieds ne bougent absolument pas, il est complètement inconscient. Et le fait qu'il soit allongé à même le sol indique que les médecins partent au plus pressé et que la situation doit être très grave.
L'hélicoptère est sur la piste.
Oui, Eric Masque qui est rentré au stand, Jean-Louis.
Il vraisemblable qu'on l'ait laissé partir.
S'il est passé, c'est que quelqu'un s'est mis au vert. Il n'est pas bloqué au vert, il est au rouge.
Éric Comas, dont Senna avait sauvé la vie 2 ans plus tôt lors des essais du Grand Prix de Belgique, se retrouve là, arrêté sur la piste, à quelques mètres de la voiture du Brésilien. Un souvenir terrible pour le pilote français.
Et là, c'était une bombe atomique qui venait d'exploser dans Tamburello. Il y avait vraiment une atmosphère lourde. Et sans voir les détails, je savais que c'était très très grave. Je me retrouvais à côté de l'homme qui, 2 ans avant, m'avait sauvé la vie sans rien pouvoir faire. Et ça, c'était terrible. J'étais le dernier des pilotes à le voir. J'avais été l'élu de la dernière visite.
Au chevet du Brésilien, son ami, le docteur Watkins, tente bien de lui sauver la vie, mais les blessures du pilote sont trop graves.
On l'a sorti du cockpit, on lui a enlevé son casque et on l'a intubé. Et j'ai compris aussi une neurologique que la blessure qu'il avait à la tête allait être fatale. Et puis tout à coup, j'ai entendu un soupir et son corps s'est relâché. C'est à ce moment, et je ne suis pas croyant,
que j'ai senti que son âme l'avait quitté.
Le cerveau transpercé par une tige de suspension brisée par le choc et qui s'est glissé à travers la visière, Senna rend son dernier souffle dans l'hélicoptère qui le transporte vers l'hôpital de Bologne. Quelques heures plus tard, le docteur Maria Teresa Fiandri confirme ce que tout le monde redoute, mais c'est déjà.
Je peux seulement vous dire que l'électroencéphalogramme pratiqué il y a 5 minutes confirme ce que le diagnostic clinique indiquait, à savoir la mort cérébrale. Cela signifie qu'il n'y a plus aucun espoir.
Non, malheureusement, plus aucun espoir. À 34 ans, Magic Senna, dieu de la F1, prince des pilotes, roi du Brésil, s'en est allé. Le monde entier est sous le choc. Le Brésil en pleure. 4 jours plus tard, le pays lui rend un hommage national, son cercueil juché sur un camion de pompiers, entouré par la garde présidentielle et escorté par la patrouille aérienne du Brésil, traverse les rues de São Paulo, où 500 000 personnes ont pris place pendant que 10 millions de Brésiliens pleurent devant leur petit écran. Parmi les porteurs du cercueil, le rival absolu d'Ayrton, un certain Alain Prost.
Ça a été terrible, comme si on m'enlevait une partie de moi-même. Et sa mort m'a beaucoup perturbé parce que, en fin de compte, j'avais envie qu'il gagne, qu'il continue, parce que c'était quelqu'un avec qui vous êtes battu et qui considérait un peu comme le meilleur. Vous avez envie qu'il batte tout le monde. J'étais devenu un peu fan d'Ayrton, dans sachant ce qui s'était passé par la suite. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez inexplicable, une sorte de chamboulement quoi, un peu dans ma vie. Que j'aurais jamais imaginé.
Avec la retraite de Prost, puis le décès quelques mois plus tard de Senna, la Formule 1 tourne là l'une des plages les plus enthousiasmantes de son histoire. Une rivalité de tous les instants, qui aura parfois tourné au pugilat, avant de se transformer en une amitié sincère entre deux champions, amitié éphémère, fracassée un 1er mai dans la courbe de Tamburello.
Moment fort ce matin dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup Christophe Cessieux de nous avoir une nouvelle fois raconté ce moment d'histoire du sport à l'occasion des 30 ans de la mort d'Ayrton Senna.